Les voix du livre. Une émission proposée par Claire Garand en compagnie d'Arthur Caillot, l'ado accro au livre, et de Fanny De Citre de la librairie Le Cyprès Jean de la Lune, membre du réseau des librairies indépendantes initiales. Vous êtes bien sur Bac FM et nous sommes en studio avec des masques. Bonjour Arthur.
Bonjour Claire.
Bonjour Fanny.
Bonjour Claire.
Ce mois-ci est le mois de l'imaginaire et nous en avons donc profité pour mettre l'accent sur les genres souvent mal aimés de la littérature. Enfin, de moins en moins mal aimés parce que l'un des livres dont nous parlera Fanny évoque quand même des robots et est écrit par un auteur récipiendaire du prix Nobel. La science-fiction a donc désormais ses lettres de noblesse. Alors, comme d'habitude, deux parties dans cette émission. Une première partie de conseils de lecture avec nos chroniqueurs et en deuxième partie, une interview de notre invité du mois. Alors ce mois-ci, Céline Minard, autrice qui aime repousser ses propres limites avec autant de sérieux que de dérision. Elle vient de publier un recueil de nouvelles que je qualifierais tout simplement de littéraire. Oui, avec du style, des personnages, des intrigues, des mondes, des univers et même des galaxies, mais tout en gardant les pieds sur terre, voire dedans. Il s'appelle Plasma, au pluriel, cet état instable de la matière, et est publié aux éditions Rivage. C'est l'une de mes premières découvertes de l'année, je n'ai pas été déçue. Mais auparavant, je me tourne vers Arthur, qui a déjà fait lui aussi des découvertes assez inattendues, donc de l'anticipation optimiste, de l'aventure et des pirates, ça fait envie.
Bah oui, hein, bon, on est déjà en octobre, la période elle est fatigante, alors moi-même j'ai du mal à trouver du temps pour lire, mais j'ai décidé de vous présenter ce mois-ci deux romans qui devraient vous mettre de bonne humeur, parce qu'on
c'est
a besoin
bon
de bonne
choix.
Humeur en ce moment.
Ah oui.
Du coup, d'abord, je vous parlerai du nouveau roman d'anticipation optimiste. Oui, oui, un roman d'anticipation optimiste.
Ça existe, ça existe.
Oui. Du coup, Sable Bleu de Yves Grévet. Puis, je vous entraînerai à travers les mers et océans, avec la carte des confins de Marie Repelin. Donc, Yves Grévet avec Sable Bleu nous plonge quelques années dans le futur, et cela fait quelques mois que les gisements de pétrole et de gaz sont inexploitables, car ils sont contaminés par une bactérie. Alors, où est l'optimiste là-dedans?
Oui.
Du coup,
j'attends.
La population, elle est obligée de s'adapter et de réduire ses déplacements. Les avions ne volent plus, le commerce international est fortement ralenti. Et du coup, ça a des avantages sur la santé de la planète. Puisqu'on constate, du coup, une baisse considérable de la pollution, une meilleure qualité de l'air, une meilleure qualité de santé pour les gens. Et du coup, c'est ici qu'on voit l'optimisme.
Oui, je vois. Alors, Yves Grévet, c'est bien l'auteur de la trilogie Métaux.
C'est ça.
Qui n'était pas particulièrement optimiste. Donc là, il
non,
a un petit
c'est
peu...
C'est la première fois qu'il fait un roman comme ça, parce qu'il avait déjà fait un autre roman qui s'appelait Groupe, aussi, qui parlait d'une dictature futuriste, et avec la technologie et tout. Et là, franchement, j'ai été surpris par qu'il écrive un roman d'anticipation optimiste.
Et qui est le héros de ce roman?
Alors du coup, c'est Tess qui vit dans ce monde, où les habitants ils se réveillent des fois le matin en constatant qu'il n'y a plus de médicaments chez eux, plus d'aliments nocifs, et comme s'ils étaient volatilisés.
C'est quand même plutôt inquiétant à la base.
Bah justement, les autorités elles s'inquiètent et elles sont persuadées que c'est un groupe de radicales écolos qui mènent ces opérations à grande échelle.
Des écologistes qui viennent chez vous nuitamment pour vous voler vos mauvais médicaments.
Voilà.
Je trouve ça super inquiétant.
Mais du coup, Tess, qui est notre personnage principal, elle va se demander si c'est pas autre chose. Parce que, alors, c'est une militante écolo, elle est la première à manifester pour la santé de la planète et elle a un don. À chaque fois qu'il y a une disparition qui se passe près d'elle, elle les sent. Comme une présence. Et elle est prise de vertige à ce moment-là. Et,
ah oui, c'est,
et c'est assez étrange, mais pourtant elle ne voit rien.
C'est un sens supplémentaire, quelque part.
Du coup, elle se demande comment ça se fait, quoi.
Et le lecteur, doit se poser beaucoup de questions aussi.
Alors du coup, ce qui m'a beaucoup plu, c'est déjà ça, notre personnage principal à laquelle je me suis beaucoup attaché, mais également l'aspect optimiste de cette histoire qui m'a beaucoup plu du coup. La plupart des romans d'anticipation sont très pessimistes et parlent majoritairement de dérèglement climatique, de dictature, de guerre nucléaire, mais ici, nous sommes dans un futur presque idyllique et j'ai trouvé ça très novateur d'espoir.
C'est très novateur en effet.
Mais c'est plein d'espoir, hein.
Oui, c'est vrai que par les temps qui courent, c'est assez rare. On a beaucoup vu fleurir de dystopie, mais peu d'anticipation optimiste, comme tu dis. Donc un livre à ne surtout pas rater.
Oui, c'est ça. En plus, il y a beaucoup de suspense dedans et il y a beaucoup de questions qu'on se pose tout au cours du roman qui trouvent leurs questions qu'à la fin, donc on est obligé de tout lire d'un coup, quoi.
Oui, oui, on ne peut pas s'arrêter.
Bref, du coup, Yves Grévet, il m'avait déjà séduit avec ses autres romans, bah, il m'a encore séduit avec ce nouveau roman plein de peps et d'optimisme que je vous conseille à 100%.
Eh bien, ça me donne très envie parce que j'aime beaucoup son écriture et je trouve qu'il a en effet le sens du personnage, du petit fait vrai, du réalisme.
Vraiment.
Et j'aime
il
beaucoup,
a une très belle écriture.
Ouais, j'aime beaucoup cette écriture. Eh bien, je vais peut-être me laisser tenter alors.
Bon, du coup, maintenant, passons au deuxième roman qui s'appelle La carte des confins de Marie Revelin. Je vous présente tout de suite, je l'ai dévoré.
Eh ben, dis donc.
Alors, tout était parfait dedans, je trouve. Il y avait le suspense, le mélange d'aventure, de romance, les personnages. Et puis, je pense que c'est vraiment la lecture qu'il me fallait en ce moment, un roman feel good avec de la magie, de l'amour et des pirates.
Eh ben voilà, elle est pas belle voilà. La vie.
Alors, avant de vous parler d'histoire, je tiens à souligner la beauté de la couverture qui reflète parfaitement l'univers sombre et mystérieux de cette aventure. Et si vous avez l'occasion de passer dans une librairie, je vous conseille de vous arrêter pour la regarder et vous aurez tout de suite envie de l'acheter. Hein.
Oui,
elle est vraiment très très belle, la couverture.
Bah, je vais aller regarder parce que je n'ai pas vu la couverture.
Et ben,
qu'est-ce qu'il y a sur cette couverture?
Je sais pas, le dessin, les couleurs, tout est beau.
Tout donne envie, on a envie de voyager dans ce...
Et puis ça reflète vraiment l'univers. Vous verrez.
Et alors donc, une superbe ambiance, des personnages attachants.
Notre personnage principal, alors on a deux personnages principaux. Il y a d'abord le capitaine Black Jackson, qui est un pirate célèbre et redouté. Et son désir le plus cher, c'est de trouver la carte des confins, donc le titre, qui lui permettrait d'accéder à des mers lointaines et encore inexplorées, qui seraient au-delà de celles qui ont déjà été explorées, quoi. Et Cali, c'est l'autre personnage principal, c'est une jeune voleuse très douée qui détient un compas très spécial, un compas marin enchanté, que convoite fortement Black. Et ce compas, il permet à celui qu'il possède de découvrir la position précise d'un objet que l'on cherche. Donc pour Blake, ça lui permettrait d'accéder à la carte des confins.
Oui, en fait, c'est en fonction de ce qu'on désire, de ce qu'on désire le plus.
Exactement.
Ça peut être n'importe quoi, c'est différent selon la personne qui détient le compas.
C'est ça, tout à fait. Et du coup, comme vous vous en doutez, la rencontre entre ces deux-là est donc inévitable.
Mais Cali... ça va se passer.
Ouais, c'est ça.
Pas évident.
Cali, c'est une jeune femme pleine de fougue, d'audace, elle accorde sa confiance à personne. Du coup, est-ce qu'elle parviendra à s'entendre avec Black?
Rien n'est moins sûr.
C'est un pirate sanguinaire, spontané, un peu malicieux. Alors, et Black réussira-t-il surtout à trouver la carte des confins?
Bah oui, c'est quand même le but de la manœuvre.
Le but de l'histoire, ouais. Du coup, j'ai beaucoup aimé cette aventure trépidante, pleine d'action et de retournement de situation. Et malgré ces 450 pages, je me suis pas ennuyé une seconde et je l'ai lu en deux jours.
D'accord, donc effectivement,
donc même si
prévoyez
j'ai pas
un
temps
week-end.
Pour lire, je trouve du temps pour le lire.
Quand ils sont bons, on trouve toujours du temps.
Voilà. Et puis les personnages, je les ai adorés. Cali, c'est une personnage badass, je l'adore, vraiment. C'est la seule femme à bord d'un équipage de pirates, mais elle sait se faire respecter et remettre à la place les gars. Et Blake, malgré ses allures de pirate froid et sanguinaire, il y a un corps tendre quand même au fond.
Oh, c'est un chamallow.
Voilà. Du coup, je me suis beaucoup attaché à lui aussi. Bref, maintenant je veux le tome 2 parce que...
Je veux le tome 2, vite.
Oui, parce que bon, la fin... Bon, je dis rien, mais la fin.
La fin, d'accord. Oui. Alors on ne dit rien. Je
crois vous m'en direz des nouvelles quand vous l'aurez lu, quoi.
Ça se termine sur un cliffhanger de ouf. Oui, oui, je me souviens. D'accord, eh bien, voilà. Allons-y. Eh bien, merci beaucoup, Arthur.
Bah, avec plaisir.
Pour toutes ces suggestions, et j'invite les auditeurs à aller consulter tes comptes Facebook et Instagram. Je rappelle donc, le nom est L'Ado Accro aux Livres, sur
Exactement.
Lesquels ils trouveront d'autres suggestions dans tous les genres. Il y a vraiment, il y a de tout.
Alors, même si les suggestions en ce moment, c'est un peu ralenti parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais il y en a toujours beaucoup. Hein.
La réserve est déjà bonne. Oui. Hein. Je crois qu'il y a de quoi faire.
540 livres conseillés.
Ça va.
Je pense que ça le fait.
On trouve ce qu'on cherche. Hein. Alors, changement total de décor, Fanny, puisque nous allons parler de robots et de soleil.
Entre autres, mais aussi
de dessin. Donc, allons-y.
Alors, en effet, Claire, aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'appelle donc Clara et le Soleil, qui est le dernier livre de Kazuo Ishiguro. Donc, comme vous l'avez dit, prix Nobel de littérature. Et Honte sur moi, c'est le premier livre de lui que je lis.
Mais c'est souvent le cas avec les prix Nobel de littérature. Hein. Ils sont paradoxalement souvent assez peu lus avant.
Oui.
Enfin, c'est
assez, pas forcément
c'est
un gage de.
Non. Alors qu'en général, effectivement, ils gagnent à être lus.
Et donc, ce dernier roman, en fait, moi, je lis très rarement voire jamais les quatrièmes de couverture. Je me laisse tenter par le titre ou la couverture ou l'auteur, mais je préfère être surprise de l'histoire.
C'est une bonne idée, je crois.
Voilà, et la preuve, parce que c'est sûrement un livre que j'aurais pas choisi, parce que c'est un roman qui flirte avec la science-fiction. Je suis pas tout à fait d'accord, c'est pas que de la science-fiction.
Et la science-fiction n'est jamais que de la science-fiction.
Et je l'aurais pas honnêtement choisi si j'avais lu le résumé.
Et qu'est-ce qui ne t'intéressait pas dans le résumé ?
Alors, je l'ai lu après coup. Donc, après coup, je me suis dit, oui, l'histoire est formidable et c'est très intéressant. Mais si j'avais lu intelligence artificielle, robot, je serais peut-être passée à côté.
Pour les auditeurs, même si ça parle d'intelligence artificielle, c'est quand même très humain.
C'est très humain et je trouve que c'est très ancré dans le présent. En fait, je vais m'expliquer. L'histoire rapidement, c'est l'histoire de Clara, qui est une humanoïde, une intelligence artificielle, qui en fait va nous raconter son histoire. Tout est du point de vue de cette humanoïde. Donc j'en parlerai plus tard, mais c'est déjà ça qui est très intéressant. Et cette humanoïde, en fait, on la découvre dans une vitrine d'un magasin d'une grande ville. Et on suppose qu'elle vient de naître, entre guillemets, d'être allumée plutôt. et elle est dans sa vitrine et elle attend qu'un enfant ou un adolescent vienne la choisir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est avec plusieurs compères de son genre qui sont appelés des AA. Et on va comprendre au fil du livre que ces AA, en fait, c'est des amis artificiels qui sont là pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents dans une société qui est devenue complètement individualiste, où les enfants et les adolescents suivent leurs cours à distance. C'est pour ça que ça me rappelle quelque chose d'assez actuel. Et un jour, cette Clara est choisie par une adolescente, 13 ou 14 ans, qui s'appelle Josie et qui va l'emmener dans sa maison pour donc lui servir d'ami artificiel, d'ami. D'amis de compagnie. Enfin,
ça
ressemble
à ça,
quoi.
C'est
une dame de compagnie.
C'est tout à fait ça, pour ados.
Pour combler leur solitude et pour les soutenir. Cette Josie, elle est très malade. On ne saura pas exactement ce qu'elle a, mais elle est par moments très très faible. Et Clara a une vision de cette société et de ces hommes, ces femmes et ces enfants très naïve et à la fois très perspicace. Elle a une intelligence, elle a une analyse des émotions humaines qui est vraiment exceptionnelle, qui est parfois plus humaine que celle des humains. Et Clara, en fait, on comprend au fur et à mesure du livre que ce sont des humanoïdes qui fonctionnent à l'énergie solaire. Oui. Donc Clara a une relation au soleil extrêmement particulière. Elle sent que le soleil est sa nourriture, sa raison de vivre, mais son moteur.
Oui, elle parle de nutriments.
Voilà,
elle
de nutriments.
Des rayons
exactement.
Du soleil, oui.
Et sans dévoiler tout le livre, elle va se dire que Josie a besoin, elle aussi, des nutriments du soleil et va essayer de, en quelque sorte, faire des prières au soleil pour sauver cet enfant. Bon, c'est vraiment sans trop entrer dans les détails. Moi, ce que j'ai adoré tout de suite, c'est la finesse de Kazuo Ishiguro pour tout ce qui est description. Mm-hmm. Le premier chapitre, c'est tout se passe dans la boutique, dans la vitrine où se tient Clara. Et je sais pas, il a réussi, il crée une ambiance, on ressent tout, on voit tout, la poussière dans les rayons du soleil, on sent presque l'odeur du magasin, enfin j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est ça en fait qui m'a complètement happée.
Oui, surtout qu'a priori c'est juste une vitrine, donc ça pourrait être quelque chose de répétitif, mais c'est loin d'être le cas.
Ouais, exactement. Et puis comme je disais, cette Clara qui a une naïveté due à sa jeunesse, on va dire, dans
oui,
le monde.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Comme je disais, elle est d'une... d'une subtilité et d'une intelligence assez, assez incroyable. Et,
elle est présentée d'ailleurs comme une amie artificielle dotée vraiment d'une capacité d'observation hors norme, déjà, par rapport aux autres.
Elle est exceptionnelle. La gérante de la boutique le voit très très vite parce qu'elle pose des questions, elle s'intéresse. Juste un exemple pour montrer la finesse un peu de ça, c'est que quand elle est dans sa vitrine, elle voit les enfants passer, elle voit des enfants qui la regardent avec envie parce qu'ils veulent en avoir une aussi à la maison. Et elle remarque parfois des enfants qui ont un regard très enthousiaste en la voyant et à la fois très triste. Et ça, elle ne le comprend pas. C'est nouveau pour elle d'analyser ce genre d'émotion. Donc elle va poser la question à la gérante qui lui dit « Écoute Clara, il y a certains enfants qui n'ont pas les moyens d'avoir une amie artificielle. C'est pour ça qu'ils ont ce regard d'envie et ce regard heureux. » avant de se rendre compte qu'ils ne pourront jamais te posséder. Et du coup, ils ont un regard triste. Et c'est toujours comme ça, une analyse des sentiments humains qui est vraiment très, très fine. Et puis, ce que j'ai aimé beaucoup aussi, c'est justement l'écriture de Kazuo Ishiguro, qui se met presque en retrait. Je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais qui a une écriture très simple, très fluide. Et qui cherche pas, enfin c'est sans esbrouf, mais je trouve que c'est moi ce qui me plaît en tout cas dans la littérature, c'est justement où on en oublie qu'il y a un écrivain derrière et qu'il est en train de nous raconter une histoire. Et on est complètement pris dans...
Oui, parce que c'est écrit à la première personne, donc on pourrait croire que c'est elle qui parle en effet.
Oui, oui. Mm-hmm. Et bon voilà, c'est plein de profondeur, c'est plein de petites subtilités qui moi m'ont vraiment...
Oui, et puis en plus il y a quand même... Bon, c'est pas un roman d'aventure, mais il y a beaucoup de rebondissements quand même.
Oui, on a très très envie de savoir ce qui va se passer à la fin. Il y a beaucoup de mystères. Comme on a sa vision à elle des choses, on ne comprend pas tout. Même jusqu'à la fin, des fois, moi, je me suis demandé vraiment certains points. J'aurais aimé plus d'éclaircissements. Mais en y réfléchissant, en fait, tout est dit. Même si c'est plutôt mystérieux, on comprend. Assez bien ce qui se passe. Voilà.
Donc, lisez-le, que vous aimiez ou non les androïdes, c'est un androïde humain.
Voilà. Non, oui, c'est vrai que c'est presque pas le sujet, en fait, l'intelligence artificielle. C'est au-delà de ça, quoi.
Oui, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il utilise cette intelligence artificielle pour poser un regard naïf sur des problèmes sociétaux profonds, sur des conditionnements sociaux aussi qui nous échappent, mais qui bien évidemment sont passés au crible par cette intelligence artificielle.
Qui voit sans juger presque, qui rapporte ce qu'elle voit sans y apporter, en effet, de morale ou quoi que ce soit.
Et c'est ça qui procure ce regard neuf et très stimulant avec cette écriture, effectivement, qui n'a l'air de rien, mais qui, en fait, est très travaillée.
Bien sûr.
Mais c'est très efficace.
Talent,
c'est ça.
Un prix Nobel.
C'est ça, voilà. Tout le monde n'a pas le prix Nobel, mais quand ils l'ont, c'est pas pour rien.
Alors, j'ai pas précisé que c'était paru chez Gallimard.
Oui, et qui est le traducteur
du monde entier? C'est Anne Rabinovitch.
Voilà, Anne Rabinovitch, qui, si mes souvenirs sont bons, a traduit l'intégralité des romans
d'Ishiguro.
Oui. Donc, à ne pas rater.
À ne pas, surtout pas rater.
Et alors, on passe à tout à fait autre chose.
Alors, tout à fait autre chose, une première, pour moi, dans les boîtes du livre. Je vais présenter une bande dessinée. Avant de venir, je me suis dit, c'est un peu compliqué de parler d'une bande dessinée à la radio. Je vais essayer de l'écrire.
Aime les défis.
Voilà. Encore une parution de chez Gallimard, bande dessinée.
On fait des infidélités à Gallmeister, je suis un peu choquée.
J'avoue. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est bien de le dire, mais j'ai été un peu déçue de leur rentrée littéraire. Donc voilà. Mon courroux est terrible.
On comprend mieux certaines choses. Donc là, moi, je vois un très beau livre avec une couverture noire, un titre rouge et ce qui m'apparaît, parce que je n'ai pas lu le livre, comme une personne allongée, un cadavre en noir, en blanc sur fond noir. De quoi s'agit-il ?
Alors, ce roman graphique, on peut le dire, c'est un sacré pavé. Ça peut faire peur, mais...
Une bricasse, comme dit l'ado accro au livre.
Une bricasse. Il n'y a pas le nombre de pages, mais...
Ils n'ont pas voulu faire peur au lecteur.
C'est ça. Et en fait, il ne faut pas, parce que ça se lit très vite. C'est très, très aéré comme illustration. Il y a quand même peu de...
Alors, c'est en noir et blanc, d'après ce que
dialogue.
Je vois.
C'est en noir et blanc. C'est un trait au feutre noir très, très fin. C'est légèrement aquarellé, donc on est toujours dans une nuance de noir et de gris. J'ai beaucoup aimé le dessin.
Là, vous ne le voyez pas, mais Fanny feuillette sous nos yeux. Donc on admire.
Et cette bande dessinée, ce roman graphique, c'est tout simplement un polar où, de façon classique, on a un meurtre dès le premier chapitre.
Oui.
Le meurtre d'une femme, une femme qui est donc retrouvée dans sa chambre d'hôtel avec des coups sur la tête et on voit un homme s'échapper en courant.
Jusqu'ici, classique.
Voilà. En fait, l'originalité de cette bande dessinée, c'est qu'elle est composée d'une dizaine de chapitres, une petite dizaine de chapitres qui vont être consacrés à des personnages différents à chaque fois. Et en fait, ce meurtre du début, c'est l'épicentre du séisme. Vous voyez où je veux en venir parce que ça s'appelle l'échelle de Richter.
Oui.
Et en fait, on va suivre à chaque fois un personnage par chapitre. On va en apprendre plus sur ce meurtre au fur et à mesure qu'on découvre ces différents personnages. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnages qui n'ont pas forcément de lien avec ce qui s'est passé. En fait, c'est les ondes sismiques de ce meurtre qui se propagent et qui vont atteindre beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages.
Une idée intéressante, ça.
Ouais, c'est une super idée. Et du coup, à la toute fin, on a toute la résolution de l'affaire, toute l'histoire, on a tous les tenants et les aboutissants. Mais au fur et à mesure de la lecture, ça reste assez flou. On va en apprendre un tout petit peu à chaque fois. Et c'est à nous de refaire le puzzle une fois le livre terminé. Ça donne envie de le relire, en fait, en ayant toutes les
ça, c'est
cartes
génial.
En main.
Ouais. Y a rien de meilleur quand on a envie de relire le bouquin.
Bah oui, oui. Et voilà, j'ai trouvé que comme je le disais, les dessins sont très, très bien. Et les dialogues sont parfaits. Vraiment, il y a une espèce de véracité, enfin je sais pas,
on s'y croit.
Ah mais vraiment.
On a l'impression que c'est ce qu'on pourrait
entendre.
C'est
ancré dans le réel, c'est hyper réaliste. J'ai vraiment adoré les dialogues, les échanges, les personnages sont hyper fouillés. Enfin c'est voilà, on suit plein de vie.
Donc il y a beaucoup de monde dans ce roman.
Oui, il y a beaucoup de monde. Il faut suivre aussi. Oui. Des fois on se perd un peu entre les personnages.
Non.
Il ne faut pas exagérer.
Bah des fois, moi, dans certains romans russes, je prends des notes. Hein.
Non, mais là, ça va. Ça se lit quand même très bien. Et puis, ça se lit vite. Donc, on est, voilà, on a vite les réponses à nos questions. C'est très agréable. Bon, ça reste très noir. Hein. C'est une histoire très sombre.
Mais c'est noir.
Mais j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée.
Eh bien, voilà qui donne envie. Alors moi, j'aime beaucoup les romans graphiques. Donc, en plus, j'aime bien le polar. Et puis, cette histoire d'onde sismique, moi, ça me branche tout de suite. Alors, merci beaucoup, Fanny.
Avec
Nous
plaisir.
Voilà parés pour regarder le soleil en face et pour survivre au séisme. Et bien, en attendant d'écouter l'interview avec Céline Minard et pour nous préparer à plisser les yeux face au soleil, je vous propose d'écouter le premier choix musical de notre invité. C'était Ocam Océan d'Eliane Radig. Vous êtes bien sur Bac FM dans la deuxième partie de l'émission Les Voix du Livre et nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Céline Minard par téléphone. Bonjour Céline.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors Céline, vous êtes écrivaine, vous avez étudié la philosophie. Plasma est votre 12e livre. En 2007 et 2008, vous avez été pensionnaire à la Villa Médicis à Rome. En 2011, pensionnaire à la Villa Kujoyama à Kyoto au Japon. Vos livres ont reçu de nombreux prix. Hein. Par exemple, en 2011, vous avez reçu le prix franco-allemand Franz Hessel pour « Selon Louise ». Et pour faillir être flingué, vous avez reçu le prix Virilo en 2013, donc un prix avec des moustaches. Le prix du style aussi en 2013 et le prix du livre inter. Je vais m'arrêter là parce qu'il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, vous publiez un ouvrage très différent, Plasma au pluriel, aux éditions Rivage. Alors Plasma commence comme un recueil de nouvelles de science-fiction, avec des trapézistes analysés par d'étranges êtres qui ne sont qu'esquissés. Et le lecteur croit poursuivre son exploration de votre univers scientifique, biologique et technique, mais surtout humain et hybride, jusqu'à ce que de curieux rappels surgissent d'un texte à l'autre, jalonnent la lecture. On passe donc des chevaux-loups lichens à des boules à neige qui ne sont pas des boules à neige, un paresseux qui est donc l'animal qui partage avec nous autres humains, qui partage son monde, des êtres fluctuants hybrides, des points de vue qui sautent de l'un à l'autre, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière nouvelle. Ben, je ne dirai pas ce qui se produit à la fin, bien sûr, je dirai simplement qu'elle donne envie de relire toutes les autres. Mais comment, enfin en tout cas c'est ce qui s'est produit sur moi. Mais commençons par le début. Alors votre livre rassemble des textes très différents et qui pourtant se répondent de manière subtile, sans parler du dernier bien sûr. Comment vous est venue l'idée de ce livre et de ces liens, de cette forme?
Oui, ben je crois qu'elle s'est peu à peu imposée cette idée-là. À force de réfléchir à essayer de continuer d'écrire des romans, je me suis rendu compte que c'était vraiment plus possible de cette façon linéaire et cohérente, parce que on ne vit pas dans ce monde linéaire et cohérent qu'on a essayé de construire, au moins en imagination, et que on est vraiment dans l'éclatement, à la fois dans l'éclatement et la séparation, ou les séparations, et dans la communication, ces fils qui nous relient, qui sont très nombreux mais très fragiles aussi. Et je pense que la forme s'est imposée, quoi. C'est le monde est tout le temps en train de nous traverser, de nous imprégner, et j'ai vraiment cherché à coller à cette impression du monde que j'ai depuis plusieurs années.
La forme habituelle du roman ne vous satisfaisait pas pour restituer votre impression de vie au monde, finalement?
Non, pas du tout, parce que je pense que ça n'est tout simplement plus possible. En tout cas pour moi, hein, en tant qu'écrivaine, si je veux coller à la contemporanéité de la forme du monde, il faut que ce soit une forme comme celle-ci, à la fois fluide, éclatée, reliée, déliée, et puis en pleine explosion, en fait.
Donc finalement, c'est une manière, si je comprends bien, de restituer votre impression. Donc il a fallu changer de forme parce que la vie était devenue différente.
La vie et la, oui, absolument, et la représentation du monde et la façon dont il se construit. Je pense qu'il y a ça, il y a ces phénomènes hyper locaux et complètement globaux, parce qu'on s'est rendu compte de façon un peu douloureuse que effectivement si un Chinois s'enrhumait, on s'enrhumait aussi. et donc il y a cette globalité qui peut plus échapper à personne, y compris dans les changements climatiques, et il y a en même temps que des endroits très locaux, des villes, des campagnes, des provinces qui sont, voire des villages où on peut agir, réfléchir, vivre d'une certaine façon ou d'une autre. Donc il y a à la fois ces confettis et néanmoins cette toile qui relie tous les confettis.
Donc oui, un petit peu comme un réseau, peut-être, enfin pas un réseau de neurones, mais un réseau d'éléments individuels et séparés, mais tous reliés, tous reliables en tout cas.
Oui, tous reliables, comme un mycélium. C'est très fragile, c'est très discret, c'est presque invisible, mais c'est là. et ça existe, et ça fait peut-être qu'on est encore vivant et capable de se transformer.
Alors justement, vous utilisez donc le titre de votre livre, c'est plasma au pluriel, oui. Et c'est donc l'un des états les plus instables de la matière. Pourquoi avoir choisi ce titre? Et est-ce que vous considérez justement votre livre comme un roman finalement et non pas comme un recueil de nouvelles, ce qu'il semble être a priori? Parce qu'il n'y a pas de genre indiqué sur la couverture comme on peut trouver parfois un roman, nouvelle. Là, il n'y a aucun genre. Donc, pour quelle raison avoir choisi ce titre? Et est-ce que pour vous, c'est justement une nouvelle forme?
Oui, je pense que c'est une nouvelle forme. C'est effectivement, on peut penser à un recueil de nouvelles. On se dit difficile de considérer ça comme un roman classique. Ceci dit, j'ai jamais écrit de roman classique. Ça, c'est bon.
C'est sûr.
C'est quand même un peu non. Mais là, c'est vrai qu'il y a une forme d'affirmation d'une forme totalement hybride. Parce que c'est un recueil de nouvelles. Ça pourrait être de la poésie. Ça pourrait tenir de l'essai. Ça vient de plein de genres différents. Et quand je dis genre, je parle vraiment de genre littéraire, c'est-à-dire les grands, quoi, la poésie, le roman, l'essai, et pas du tout les niches de lectorat. Voilà. Et alors, plasma, c'est effectivement un état instable de la matière, c'est l'état le plus commun de la matière dans l'univers, à l'échelle de l'univers. C'est un état qu'on trouve rarement sur Terre. Donc, il y avait cette idée d'évoquer et de traverser des états de la matière différents. Donc liquide, solide, tout ça on connaît. Et puis plasma, donc qu'est-ce que c'est que ça? Par ailleurs, c'est aussi le liquide qui réunit les gamètes dans le sang. Donc ça a vraiment une fonction d'enveloppe et de lien. Et puis, ça fait référence à des technologies comme les écrans plasma et tout ça. Donc, c'était un mot qui, au pluriel, est un peu dérangeant. Et c'était un mot qui permettait différentes entrées dans le sens du livre avec une idée d'instabilité majeure, à la fois d'instabilité et d'englobement de tous les textes ensemble. C'est, à ce sens, c'est assez génial, et je peux le dire parce que c'est mon éditrice qui l'a trouvé, qui est excellente pour les titres, et qui fait que ça place tout de suite le texte exactement où il doit être.
En plus, c'est entre le biologique et le technique, parce qu'il y a des exceptions différentes dans les deux sens. Et donc, pour vous, c'est aussi une manière de désigner une nouvelle forme qui vous paraît transcender les grands genres, comme vous dites, et non pas les niches de lecteurs, comme par exemple le policier, SF ou autre chose. Mais vraiment, parce que pour vous, si je comprends bien, ces grands genres sont également, enfin, peuvent s'hybrider.
Mais on a le droit de tout faire.
Bien sûr.
les genres ne s'hybrident pas, parce que si on commence à hybrider, on dit, bon, comme on a dit jusque-là pour tout ce que j'ai écrit, ah, c'est quelqu'un qui prend le genre et qui le tord et qui le ceci, cela. J'ai jamais travaillé comme ça. C'est toujours des rencontres bizarres, des déplacements et des expérimentations, en fait, organiques, hein, plus que théoriques. Et là, c'est vrai que c'est peut-être je fais plus du tout d'expérimentation, si ce n'est à partir de la matière même du monde plutôt que de la forme de la littérature. Mais effectivement, ce sont des textes qui viennent tous de sources littéraires et cinématographiques diverses, et c'est très mélangé. Alors certains textes vont plus du côté du conte, d'autres de l'anticipation, mais on sait plus trop étiqueter ça, et c'est exactement ce que je cherche.
Effectivement, je pense qu'étiqueter les textes de plasma, c'est une activité vouée à l'échec, et ça serait pas porteur. Alors justement, l'une des thématiques qui parcourt ces textes semble être la volonté de montrer le monde sous des angles assez variés et assez inattendus, l'angle d'une conscience et d'une perception différente, parfois non humaine, souvent animale. Qu'est-ce que vous recherchez dans l'exploration de cette différence?
Je pense que je cherche à élargir la conscience humaine, en fait, à élargir notre conscience, ou à la, à la déranger aussi, à rendre l'évidence questionnable. C'est-à-dire, quand on rentre dans un texte et qu'on sait plus du tout si le haut est en haut et le bas est en bas, ou qu'il y a une inversion de perception aussi fondamentale, aussi simple, hein, là, on commence à être vraiment chamboulé dans la façon de lire le monde ou de juste de pouvoir s'y mouvoir. Et je pense que c'est un enrichissement. C'est une richesse. Si on pouvait avoir adopté, et si on peut imaginer adopter la perception d'un écureuil sur un arbre, qu'est-ce que c'est qu'un arbre pour un écureuil? Ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que c'est un arbre pour nous. Et dans tous les sens du terme, qu'est-ce que c'est en termes de nourriture, en termes d'espace, en termes de circulation? C'est très très différent. Donc si on arrive à multiplier et à s'imaginer, à s'incarner dans les différents points de vue des espèces qui sont autrement outillées que nous, on a un monde beaucoup plus riche tout à coup. Et notre perception est complètement chamboulée, désorientée, réorientée et clairement enrichie.
Alors l'un des exemples effectivement de ce que vous venez de dire pour les auditeurs, c'est par exemple, hein, il y en a plusieurs, mais vous présentez le monde vu par un paresseux, par exemple. Mmh. Alors ça va beaucoup plus loin que ce que je suis en train de dire, mais je ne peux pas tout révéler aux auditeurs. Il faut qu'ils aillent le lire parce que c'est très enrichissant, comme vous dites. On ne perçoit plus effectivement le monde de la même manière. Donc là, on a un exemple de ce que vous venez de nous expliquer. Alors, nous allons faire une première pause musicale en écoutant un deuxième titre que vous avez choisi. Il s'agit d'un extrait de Percussion Works de Yanis Xenakis. On écoute. Vous êtes bien sur Bac FM, nous sommes en compagnie de Céline Minard, auteure de Plasma, au pluriel, publié aux éditions Rivage. Et nous venons d'écouter un extrait de Percussion Works de Yanis Xenakis. Alors, Plasma, on vient de le dire, c'est un ouvrage hybride. Et justement, votre style se fonde beaucoup sur des associations de connotations inhabituelles, en tout cas qu'on ne voit pas souvent, sur des points de vue internes réversibles. C'est comme ça que moi je l'ai perçu, c'est peut-être pas comme ça que vous l'avez écrit. Alors pourquoi ce choix? Quels ont été les défis d'écriture que vous vous êtes donnés et que vous avez eu à relever? Parce que écrire ce genre de perception, d'impression, ça doit être quand même, ça doit retourner un peu le cerveau. Est-ce que vous avez eu des défis à relever?
Oui, non, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est de me retourner un peu le cerveau quand j'écris, ça c'est sûr. Je ne sais pas si c'est un défi, je pense que c'est vraiment un moteur plutôt, un moteur de l'écriture, une raison pour écrire, c'est d'arriver à des perceptions différentes de celle que j'ai tous les jours, comme tout le monde. Donc c'est vraiment la possibilité de rentrer dans une autre forme, à la fois de la langue, dans un autre état de la langue, ça c'est évident, et dans un autre état du monde. Voilà, si on commence à... J'avais pour habitude, avant, de lire un tout petit peu de poésie, juste avant d'écrire. Parce que ça me mettait dans un autre espace par rapport à la langue, et dans un autre état, vraiment. Et si on commence à passer dans cet état-là de langue, on arrive à des états perceptifs qui sont différents. Évidemment, c'est une gymnastique de l'imagination, mais c'est vraiment ça, pouvoir sauter, enfin pouvoir inverser le monde, par exemple, hein, comme dans l'histoire de Ouyouch, effectivement, ne plus savoir, enfin considérer le haut comme le bas et le bas comme le haut et être pendu pour ce qui est pour nous à l'envers, alors que pour lui c'est à l'endroit. C'est très très simple, hein. Mais c'est vrai que c'est un défi pour, pour peut-être moins pour l'écriture que pour l'imagination, c'est-à-dire arriver à imaginer tout ce qui change quand on est dans cette position-là, en étant dans son état normal.
Oui, sans compter que pour toujours pour rester dans cette nouvelle, il y a aussi toute la question de la vitesse et de ce qu'il convient de faire, de ce qui est totalement inutile, cette perception de ceux qui s'agitent vainement autour de lui. Enfin, c'est tout est changé. Il n'y a pas que le haut et le bas. Et puis c'est très profond. Je le dis pour les auditeurs parce que on ne se rend pas compte à quel point justement cette inversion des points de vue, des points de repère, des points de référence invite justement à complètement modifier notre perception. C'est le cas pour vous en tant qu'auteur, mais aussi pour nous en tant que lecteur. Alors vous dites que vous lisiez souvent de la poésie avant de vous mettre en état d'écriture. Quel texte poétique est-ce que vous lisiez?
Là, c'était beaucoup Dickinson quand même, parce que c'est tellement compliqué en fait. Immédiat et compliqué. Est tellement polymorphe, enfin, que c'est parfait. Et puis, ça met tout de suite, on est branché tout de suite. Il suffit de lire un poème, on est déplacé, quoi. Mais en ce moment, je repense beaucoup à un poème de Michaud qui fait circuler tout un paysage et toute une histoire dans très très peu de mots. Et il y a comme une narration. Et je me dis que c'est ça qu'il faudrait arriver à faire, c'est-à-dire en, je sais pas, 3 strophes, 18 vers, arriver à poser un monde et à le, et à le laisser ouvert, mais complet. Ça me fascine.
Oui, c'est fascinant. Je compatis.
Je compatis.
Non, parce que c'est très difficile d'atteindre ça. Effectivement, peut-être que ce sera votre prochain ouvrage. C'est le stade ultérieur. On ne sait pas.
Ce sera de pire en pire.
Ah non, mais c'est ça.
Après des non-romans, la poésie.
Et surtout que c'est une manière qui semble correspondre à votre appréhension, votre mode d'exploration du réel. Et c'est vrai que la poésie est un mode très, très dense, très, très puissant. Et c'est ce qui fait d'ailleurs toute la difficulté de la chose. Alors justement, dans vos textes, dont on ne va pas donner de forme, ce sont des plasmas. Dans vos plasmas, il y a donc plusieurs éléments qui semblent aussi manifester des préoccupations qui sont très loin, a priori, je dis bien a priori, de la poésie, à savoir des préoccupations écologistes, des préoccupations animalistes, ou d'ailleurs aussi humanistes. Est-ce que vous considérez ce livre comme un ouvrage engagé, au sens où il délivrerait aussi un message citoyen, ce message citoyen pouvant bien sûr être poétique?
Alors, c'est un livre engagé, ça c'est sûr. Je pense que c'est un livre vraiment engagé dans le monde, dans le monde actuel. Est-ce que ça délivre un message? Je pense que ça en délivre plusieurs, qui sont peut-être plus ambigu que celui que délivrait le dernier monde, un livre que j'ai écrit il y a 15 ans et qui était une espèce de vrai roman, là, pour le coup, très linéaire, dans un monde cohérent, unifié. Plasma, c'est le contraire, parce que il y a 15 ans, on pouvait écrire ça, mais maintenant, c'est plus possible. comme je disais tout à l'heure. Mmh. Et je pense qu'effectivement, c'est un livre qui... On n'est plus dans l'alerte, hein, parce que tout le monde est alerté. Et s'il y a des gens qui pensent, qui croient pouvoir dire encore qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe en termes de dégradation de la planète, on ne peut pas les croire, on ne peut plus les croire.
C'est de la mauvaise foi.
Oui, oui, ou c'est de la bêtise, mais enfin, c'est du déni en tout cas, ou pour le moins du déni. Mais on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été alertés. Donc ce sont pas des textes d'alerte, c'est plutôt des textes qui vont par-delà l'alerte en essayant d'imaginer des formes hybrides de vie, des métamorphoses possibles, plus ou moins dérangeantes, et qui font qu'on va peut-être pouvoir continuer à vivre et peut-être à vivre autrement avec les autres espèces et dans une sorte de communication, contagion, porosité un peu plus ouverte que ce que nous, les Occidentaux, on a pu faire jusque-là.
Donc pour vous, c'est une manière de montrer les liens, si je comprends bien, les liens qui existent entre les différentes formes du vivant.
Oui, sûrement les liens et puis la possibilité du contact. Parce que je ne veux pas retirer ni aux végétaux ni aux autres animaux leur altérité. Ce n'est pas du tout ça que j'essaye de faire. Au contraire, j'essaye de faire sentir leur altérité et de la prendre avec nous pour nous changer, nous, sans toucher à ce qu'ils sont eux vraiment. Après, c'est bien quand il y a une forme de communication qui est toujours non-verbale d'ailleurs et qui peut être de l'ordre de la biologie avec les mélanges et les hybridations un peu sauvages là.
Oui. Ouais. Des lichens, chevaux, loups. Entre autres.
C'est un lichen, hein. Attention.
Non, c'est pas un lichen, c'est vrai, c'est pas un lichen.
N'est pas un lichen.
Tout à fait.
Enfin bon, c'est notre classification, ça c'est pas très important. Mais mais effectivement, il y a le vivant peut communiquer avec le vivant d'une façon ou d'une autre. Le truc, c'est qu'on a maintenant à réinventer les façons de le faire.
Et c'est ce que vous faites, en réalité, par l'écrit, mais qui pourrait se réaliser, enfin, pas forcément de cette manière, bien sûr, mais c'est une manière de montrer que c'est possible, finalement.
C'est possible, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire bouger tout ça, entre autres les éthologues, actuels et puis tous ceux qui portent un regard scientifique sur le vivant maintenant sont en train de changer les cadres.
Effectivement, il y a beaucoup de mouvements sur cette question-là. Et moi, j'inviterai les auditeurs à lire notamment le dernier texte qui s'intitule, enfin, bien évidemment tous, mais le dernier éclaire beaucoup d'éléments sur l'ensemble l'ensemble de ce livre Plasma. Donc le dernier s'intitule La Queen, mais K-U-I-I-L-O-N avec E-N. Et ce texte me paraît inviter à relire l'intégralité de ce qui précède. Et là, je parlais de la fin, mais je vais revenir au tout début du texte, la citation liminaire, qui est donc une citation de l'autrice états-unienne Ursula K. Le Guin ou Le Guin de « Danser au bord du monde ». Donc c'est une citation assez poétique d'ailleurs, un peu épique aussi. Pour quelle raison avoir choisi cette citation en exergue de votre livre?
Parce qu'elle décrit absolument ce que je fais dans le livre, c'est-à-dire des histoires suspendues qui n'ont ni début ni fin, presque ni queue ni tête, enfin c'est ce qui est écrit d'ailleurs,
oui.
et qui restent en l'air comme ça, et auxquelles on peut reprocher d'être comme ça, suspendues et inarrêtées, inarrêtables aussi. Mais c'est vraiment la forme qui me convenait. J'ai trouvé l'épigraphe bien après avoir fini Plasma. Mais ça m'est apparu comme une évidence. Quand je suis retombée là-dessus dans Danser au bord du monde, je me suis dit, mais c'est ça, ça éclaire tout et ramasse tout en même temps.
Alors juste, je vais citer un tout petit extrait de la citation qui fait plusieurs lignes. « Raconte une histoire qui est une vraie fin au lieu de recommencer sans arrêt comme ça pour aboutir à un imbroglio qui par nature ne suit ni ne précède rien mais reste là suspendu à se mordre la queue. Et vous, vous écrivez justement une histoire qui n'a pas de vraie fin, qui recommence sans arrêt, qui aboutit donc à cet imbroglio qui ne suit et ne précède rien et reste suspendu. »
Voilà.
Vous prenez le contre-pied. en fait.
Je fais ça. Ceci dit, dans la citation, ce reproche qu'on fait au narrateur, il est évidemment, comment dire, c'est une critique de cette demande-là, justement.
C'est ironique.
Oui, voilà. Donc c'est, oui, vrai, c'était quasiment programmatique, hein, quand je suis retombée sur cette,
c'était
cette citation,
écrit.
Je me suis dit, c'est ça, on va arriver à cet imbroglio.
Et c'est un parti pris très fort qui est celui de pouvoir décrire le réel. Eh bien, il faut de l'imbroglio, il faut un récit qui se mord la queue, parce que sinon, on n'arrive pas à décrire ce qu'on veut décrire, finalement.
Oui, et puis surtout, on simplifie les choses, alors que c'est bourré de liens partout, qu'on les voit à la première, à la deuxième ou à la troisième lecture, parce qu'effectivement, la fin invite à relire, et je pense que c'est pas une mauvaise idée.
Oui, et... je crois aussi.
Et voilà, et il y a cette forme du vivant, ou de l'humus, vous comprenez, c'est tout un tas de matériaux entassés, on dirait que c'est inerte, mais pas du tout. Ça c'est parcouru d'un tas de galeries, et de réseaux, et de racines...
Sa vie, sa chose
microbes.
Et de microbes. Eh bien, c'est sur cette belle constatation de l'humus du texte qui vit, même s'il a l'air inerte, que nous nous arrêterons, car malheureusement, l'émission touche à sa fin. On aurait envie de vous écouter plus longuement nous parler de ce texte monde. Mais donc, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus, eh bien, surtout, moi, je vous invite à vous rendre chez votre libraire pour trouver Plasma, publié, je le rappelle, par les éditions Rivage. Merci beaucoup, Céline, d'avoir passé un moment avec nous sur les ondes de Bac FM.
Merci à vous.
Et je remercie donc nos chroniqueurs pour leur coup de cœur enthousiaste et notre partenaire, le réseau de librairies indépendantes Initiales. Je vous rappelle que si vous voulez nous écrire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette émission, eh bien vous pouvez le faire à l'adresse claire@memorialiste.fr. Cette émission était réalisée et montée par Laetitia Durieux et présentée par Claire Garand. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques dans les voies du livre.